Elle est très forte quand même, la parole. Il dit, tu es... Pour vous, qui suis-je? Jésus était en prière. Jésus était en prière, à l'écart. À l'écart. Il était en prière, il avait les yeux levés vers le ciel. Et à l'écart, quelque part, pourtant il y avait des gens qui étaient là, mais il était quand même à l'écart des gens qui étaient là. Dès que tu es en prière, tu es à l'écart. Tu es à part, tu es sacré, tu es mis à part, tu es emporté. Et tu as les yeux vers le ciel. Et Dieu, Jésus, quand il est tourné vers quand il est à l'écart, il est solitaire, il prie. Et ce qui est très curieux, c'est la seule fois, hein, c'est la seule fois dans l'évangile. Il est en prière et puis il pose une question à ceux qui sont là. Il est en prière, il pose une question pour vous, qui suis-je? Qui suis-je? Alors c'est sûr que la réponse de Saint-Pierre, de Simon, Barjona, c'est Képhar. Tu es loin, tu es l'onction, tu es la source de l'onction divine, tu es la source de toute onction divine, de toute royauté d'onction vivante divine. Tu es la source royale de toute onction divine. Mais tu es loin, quoi, tu es loin, le Messie, tu es l'onction messianique dans sa source. L'onction messianique, l'onction, la vie divine, royale dans sa source. Tu es l'onction de Dieu. Tu es le Christ, le Messie de Dieu. Tu es Dieu. Dans cette onction. Tu es l'épanchement de cette onction de vie divine, royale. Et en même temps, celui qui en est la source. Tu es Dieu dans le Messie. Il ne faut pas que tu en le saches, hein. Il faut pas qu'on le sache. Hein. Bah, ça veut dire qu'il l'avait jamais dit. Hein. Il n'a jamais dit à personne ça. Il veut pas qu'on le sache. Et si Saint-Pierre l'a dit, c'est parce que ce n'est pas toi qui le dis, ce n'est pas ta chair hein, qui dit ça. Hein. Pas ton sang, hein. C'est pas la terre. C'est pas parce que tu l'as entendu. C'est parce que c'est Dieu qui te. C'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux qui dévoile ça dans la bouche parce que sa pierre était un peu spontanée. Alors elle est tout de suite taquée. Et puis il découvre ce qu'il dit après l'avoir dit, quoi, si je puis dire, ou en même temps qu'il le dit. Saint-Pierre est un peu comme ça. Mais c'est beau en tout cas. Alors surtout, faut pas qu'on le sache. Jésus, quand même, dans la vision béatifique, il est bien plus que l'onction divine dans sa source, de Dieu lui-même, puisqu'il est Dieu à l'état pur, il est Dieu. Mais enfin, il prie, et donc il prie. Et il est à l'écart de tous ceux qui prient. Il est à part à l'intérieur de Dieu. La prière. Il s'est fait prière. Dieu s'est fait prière. Et du coup, une prière, c'est une source. C'est une source. C'est une source. C'est une source d'onction. C'est une source. C'est l'huile hypostatique du Saint-Esprit qui se répand à l'intérieur de tous les espaces intérieurs de la vision de Dieu en lui-même. Et qui peut recouvrir d'ailleurs. Les sommets, hein, des espaces spirituels purs, comme une onction, comme une pas intérieure, mais comme si c'était une onction, j'allais dire, qui se repose sur eux, de toutes les hiérarchies. Et comme si c'était en prière, qui reposait ainsi, à part, ça veut dire, au-dessus de tout ce qu'il y a de plus sacré, alors il repose, il fait couler l'huile de son onction divine. Voilà, sur toutes les hiérarchies, hein. C'est pas une invasion intérieure, hein, mais parce que pour ça, il va falloir autre chose. Toujours impressionnant, ça. Hein. Dans le miracle des trois éléments, ce silence-là. Ce silence qu'on a comme pour un signe invisible qui barre nos lèvres. Ce silence. Écoute, tais-toi. Le signe, quoi, dans la chair, aussitôt Dieu fait silence, le monde angélique fait silence. La naissance de tout homme sur la terre, dans ce monde, doit faire silence, parce que dès qu'il est né, l'homme court sur les chemins de la terre. Alors, il doit faire silence, tant qu'il est dans le monde intérieur. Du silence angélique, mais un silence angélique quand même qui communique l'onction et la lumière. Alors, il n'y a pas de silence, contrairement à ce qu'on croit. Le monde angélique n'est pas en silence, de la conception jusqu'à la naissance. Il y a 9 mois extraordinaires. Là. Mais après, oui. Surtout, n'en parlez pas. Hein. Parce que nous sommes sortis, j'allais dire, du tombeau, hein, du miracle des trois éléments, hein, celui d'où jaillit précisément l'ouverture. Notre corps s'ouvre de tous les côtés pour que la chair ouverte ainsi puisse être embrassée, hein, étreinte par le mystère de la croix, du silence, parce que le mystère de la croix est Jésus, tout le mystère de Jésus, toute la réalité intérieure de Jésus. C'est d'absorber, d'assumer tout le silence intérieur qui va vivre pendant des millénaires, pendant des siècles, pendant des années, pendant des mois, pendant des jours, pendant des milliards, des myriades, des myriades d'instants présents remplis intérieurement de cette onction. Après les autres, dans un seul regard temporel, hein, assumé précisément dans ce silence d'union hypostatique déchiré dans l'hostie. C'est un amour victimal, la 7e demeure. Et c'est impressionnant l'évangile aujourd'hui, parce qu'on voit bien, Jésus n'a pas parlé. Hein. Pendant 30 ans, là, il n'a pas dit. Saint Joseph, tu sais, papa, le Messie, c'est moi. Je suis Dieu, le Fils, c'est moi. Pas une seule fois, pas une seule fois. Mais Saint Joseph, il le savait bien. Ils ont Moïse et les prophètes alors qu'ils les écoutent. Jésus n'a pas besoin de dire ce que son papa sait déjà. Il n'a pas besoin d'enseigner sa mère. Non. Mais. Les dispensaires de son père et sa mère, ça c'est une chose que Jésus ne connaît pas. La disparition silencieuse dans ce qu'il y a de plus silencieux, dans l'amour sans limite et sans fin, totalement indépendant et à l'écart totalement de l'humanité tout entière et de toutes les séquelles du péché originel et des autres transgressions. Il y a un silence là-dedans. Qui est capable d'entendre et d'écouter, quoi, cette pénétration, cette onction angélique, de toutes les hiérarchies à l'intérieur de ce nid, de cette source. fait que le Messie est Dieu dans sa propre source. Parce que Jésus, c'est Dieu. Dieu dans sa propre source. Dieu le Fils, c'est pas le Père seulement qui est Dieu dans sa propre source. On dit le Père, première personne, voilà, ça c'est Dieu dans sa source. Mais le Fils aussi, c'est Dieu dans sa propre source. Et le Saint-Esprit aussi est Dieu dans sa propre source. Bien sûr, puisque c'est l'indivisibilité, toute la nature divine qui est source même, dans sa propre source de Dieu, dans l'acte pur et ancré de Dieu. Donc il y a une nourriture qui va pouvoir... c'est ce qui va faire la nourriture de chacune des personnes et qui va alimenter la prière tout à fait appropriée à chacune des personnes divines. Donc Jésus est en prière. Et de cette prière-là. Et comme il est en prière de cette prière-là, c'est sûr que les disciples qui sont là, à côté, quand ils posent la question, il y a du silence angélique, du silence de l'Immaculée Conception, du silence de la spontanéité tout à fait parfaite. Donc Jésus a jailli pour faire jaillir cette prière, de manière à ce qu'elle rayonne sur les disciples, va se saisir, hein, va se poser sur Saint-Pierre, sur la bouche de l'Église, sur la bouche du corps mystique de Jésus. Et c'est la bouche du corps mystique de Jésus, la bouche c'est le pape, enfin bon, et c'est la bouche du corps mystique de Jésus qui, elle, va annoncer la divinité, qui va annoncer qui est Jésus. Et c'est pour ça qu'on a pour la première fois ce fait que Jésus est en prière, parce que il ne parlera pas qu'à travers la surabondance d'une humanité entièrement assumée en lui, hein, et de la surabondance de laquelle parlera la Jérusalem glorieuse pour exprimer ce qu'il est. Pour ça, c'est pas du tout choquant d'entendre Jésus, parce qu'il est en prière, dire « Qui suis-je pour vous ?» Parce que Saint Jésus va en faire l'expérience petit à petit de ce qu'il vit dans les palpitations de sa vie humaine. Lorsque les palpitations de sa vie humaine sont celles de toutes les palpitations des vies humaines entières, qui s'est incorporé, si je puis dire, par l'onction. Parce que l'onction dans sa source fait subsister dans sa personne divine. Subsistance mystique dans le Verbe de Dieu. Tous les hommes qui subsistent par la grâce, sanctifiant à l'intérieur d'une unique personne. C'est une subsistance mystique dans le Verbe. Voilà. C'est ce silence qui est impressionnant. Que nous, c'est par révélation, c'est par don, c'est par amour, c'est par anéantissement total de l'expression tonitruante du Père, qui est le Verbe de Dieu, et de la parole tonitruante du roi de l'univers, qui est le Christ Jésus notre Seigneur. C'est à travers ce triple silence que il va y avoir la révélation. À partir du moment où nous rentrons dans la... où nous commençons à marcher sur les chemins de la terre. Alors si vous suivez, si vous marchez sur les chemins de la terre, vous rentrez entrer dans ce silence de la croix. Pour entrer dans ce silence de la croix, je dois être crucifié. N'en parlez pas de ça, ça sert à rien. Vous voyez, c'est extraordinaire, cette condamnation extraordinaire que l'évangile fait de prosélytisme. Et une manière d'évangéliser qui n'est pas évangélique, justement. C'est plus de prosélytisme, c'est de harcèlement. Si quelqu'un me demande compte de mon espérance, de l'espérance qui est en moi, oui, je vais en dire quelque chose discrètement. Discrètement, de manière adaptée, allez dire, la question qu'il pose, mais je ne vais pas. Vous voyez, ce silence est extraordinaire. La reine des apôtres, le roi de l'univers, le roi d'Israël. Le silence angélique, tout ça, c'est une chose extraordinairement parlante. Pour nous. Et c'est ainsi d'ailleurs que Dieu parle. Parce que du coup, il y a une transverbération qui est possible. Et au terme de tout, le Père envoie son Verbe. Et c'est pas la parole de Jésus qui est la volonté éternelle du Père. La parole de Jésus. Elle est là pour. Vous indiquez le chemin justement de la transverbération, mais c'est la transverbération, cette subsistance dans le Verbe qui fait la volonté agréée du Père pour nous et pour l'union hypostatique de Jésus. La volonté éternelle du Père, c'est la sagesse de la croix, parce que le chemin de l'incarnation de Jésus est immaculé et pur. C'est une prière contemplative éternelle. Saisie dans son onction, la stupéfaction angélique, qui sont comme saisies hein, et absorbées dans un silence qui les fait descendre jusque dans la toute petitesse minuscule de l'union hypostatique de Jésus. Parce qu'ils vont suivre Dieu partout où Dieu va. Et quand Dieu va, là, dans ce silence de l'union hypostatique de Syrie, ils suivent l'agneau partout où il va. Et nous aussi, nous suivons l'agneau partout où il va. Hein? Alors, celui qui veut me suivre, ben, qu'il prenne sa croix, bien sûr. Et qu'il suive le chemin de la volonté éternelle du Père qui fait qu'il y a une disparition totale. Et comme c'est la volonté éternelle du Père qui s'est entièrement perdue dans cette obéissance du Fils, du Verbe de Dieu, hein, du Dieu vivant, du Dieu du Dieu vivant qui a lui-même sa propre source. Et ben, le Père il a perdu sa vie, si je puis dire, puisqu'il a tout donné. Et le Verbe de Dieu, il a perdu sa vie hein, en prenant ce chemin. En prenant ce chemin, il y a l'émanation, la fameuse émanation. De l'onction surgit l'émanation. Et de la croix produit, surgit la consolation agréée de Dieu. Et les trois transgressions, celle de l'Esprit Saint, celle qui dévaste l'Esprit Saint, celle qui dévaste Dieu dans sa propre source de lumière, à lui-même sa propre source dans le Fils, ce qui dévaste la fécondité de Dieu qui elle-même perd entièrement sa vie, sa propre fécondité face non seulement au Fils, mais aussi à la création qui sort de ses mains. L'amour de Dieu est jusque-là, quoi. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, perdu leur vie, si je puis dire, dans la stupéfaction du monde angélique. Et du coup, le monde angélique, rentre dans le mystère de l'agneau, s'écoule dedans, et disparaît, il devient de plus en plus... Il découvre, quoi, la porte de l'humilité, la porte de l'onction dans l'humilité. C'est une humilité qui vient, dans les portes de la vraie. Alors il y a une pentecôte de l'Immaculée Conception. Il va y avoir une pentecôte des qualités d'amour sans limite et sans fin du cœur d'accueil de l'amour de l'époux, de la paternité incrée de Dieu. Une pentecôte, j'allais dire, spirituelle. Une pentecôte, j'appelle ça la pentecôte du sang. Et ces trois pentecôtes permettent qu'il y ait une pentecôte de la nature humaine ainsi glorifiée dans le monde incréé, de l'émanation du Saint-Esprit, dans la disparition du Père et du Fils. Responsabilité incréée, ça, vous voyez, c'est notre catéchisme, ça. Je crois au Christ, au Seigneur, qui a perdu sa vie pour la vraie vie, mais comme il voit ce qu'il fait, ce qu'il faut faire au Père, nous perdons nous aussi avec eux notre propre vie pour trouver en eux ce qui vient sourdre. Dans cette pentecôte. Et s'il y a le péché, vous voyez, il faudrait relire les midrashs rabbiniques de Moïse là-dessus. Si. Quand Dieu crée, il dit, oui, bien sûr, il va y avoir le péché, hein, il va y avoir des transgressions. Si on peut dire oui, si on peut dire oui, à l'infini. Mais si on peut dire oui à l'infini, mais avec un peu moins que l'infini. Il y a une portion là, de possibilité, d'un fil possible pour la transgression. Eh bien, Dieu crée quand même. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce petit fil qu'il va y avoir la possibilité de la Pentecôte. C'est grâce à ce fil qu'il va y avoir une possibilité d'une perte totale de Dieu dans sa source, à l'intérieur du mystère du silence de la croix. Parcourant tous les siècles, tous les instants. Et à un point tel d'ailleurs que dans le mystère de la résurrection lui-même, de la résurrection vivante de Jésus, de Marie, de Joseph, enfin, avant l'apparition d'accomplissement des temps, il y a même à l'intérieur de ce mystère de vie rempli de gloire, de lumière, de palpitation, où le corps lui-même se glorifie même dans la source divine de la propre gloire. Et palpite sa lumière de gloire, font palpiter l'intérieur de la matière vivante, du corps, de la chair de résurrection. Même là, la disparition silencieuse de la croix apparaît de manière glorieuse. Parce que il n'y a rien de plus glorieux que la croix. Il n'y a rien de plus glorieux que la croix. Et même, bien sûr, c'est possible, bien sûr, qu'il y ait le péché quand Dieu crée. Il dit, mais au moins, nous créons, nous sommes amour, lumière. Et s'il y a un petit fil mauvais, un rien du tout, qui rentre, Eh bien, alléluia. Alléluia, parce que la surabondance de la disparition de la vie de Dieu lui-même pourra apparaître grâce à ça, grâce aux transgressions. La transgression, c'est je donne ma vie. Hein. Dieu va pouvoir dire, ah, je donne ma vie, moi. Je perds ma vie. Comme petit malin, idiot, vraiment pas intéressant, vient de dire, je vais dévaster, moi je vais faire le malin. Histoire de montrer ma bille, comme disent les jeunes, voilà. Je vais faire la dévastation de Dieu. Ben oui, si. Mais Dieu, le bon Dieu, donne sa vie. Et Jésus donne sa vie. Celui qui perd sa vie la trouvera. Celui qui. Et Dieu, il fait comme ça. Alors, on est en train de suivre. Parce qu'on est. Nous sommes Dieu, nous aussi, par participation dans l'onction. Nous sommes Dieu par participation dans sa source. Nous sommes Dieu par participation dans la subsistance à l'intérieur du Verbe. Nous sommes Dieu par participation dans le regard de Dieu qui voit en nous le Verbe de Dieu, le Fils. Il vient l'épouser, hein, il vient disparaître dans la disparition de nous par la foi en lui. Cette disparition mutuelle dans le baiser du véritable amour fait toute la vie éternelle de Dieu et la nôtre aussi. Et la nature humaine, elle est tout à fait elle-même dans cette disparition de la croix et de la gloire et de l'éternité. Oui, dans notre corps, il y a des tas de choses qui sont mortes. Hein. Regardez, vous pouvez vous gratter ici, vous avez de la peau morte. Mais ce qui est vivant dans votre corps, tant que vous n'êtes pas dans le tombeau, hein, ce qui est vivant dans votre corps, c'est ça qui compte. C'est pas la partie morte de votre corps qui compte. Vous dites pas, voilà, regarde dans l'histoire, dans l'espace d'une vie humaine, il y a, je sais pas moi, on avait calculé une fois, c'est facile si vous vivez 70 ans. Si je vis 100 ans, et moi par exemple, si je vis 100 ans, je vais laisser sur la terre de cellules. 1300 kilos, une tonne et demie. Voilà. Mais il n'y a pas, parce que le corps se renouvelle. Hein. 1300 kilos. Mais je ne considère pas que c'est les parties, j'allais dire, dispersées de mon corps mort, desquamées, tu vois. Donc c'est moi, non, mais moi, je ne suis pas du tout ça. Et si je prends cette fois-ci, puisqu'aujourd'hui, on est dans les jours du tachyon, on est dans les jours du... Alors c'est encore pire, alors là, c'est... Pff, c'est pas un kilo, une tonne et demie, c'est... Pff, tu multiplies, je ne sais plus combien, c'est un truc. Bah, la partie à ce moment-là, la matière quoi, qui fait partie de ma vie, bah, c'est celle qui est vivante, c'est celle qui palpite et qui brûle mon cœur. C'est pas les parties mortes. C'est sûr. Donc ce que nous vivons en suivant Jésus, dans le monde palpitant de sa lumière incréée, et dans la source de l'onction, la participation à la vie intime de Dieu, en étant nous-mêmes sous le regard de Dieu, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, enfin, l'engendré de Dieu, la sponsalité de Dieu à l'intérieur de Dieu. Quand Dieu nous regarde, c'est ça qu'il voit. Il nous l'assume, il donne sa vie, il perd sa vie. C'est une perte mutuelle de vie, quoi. Hein, c'est un tourbillon. C'est une union, c'est un mariage, c'est un au-delà. De la perte totale de soi. Dans une humilité, un effacement total, parce que Dieu se perd en nous dans un effacement pour qu'il n'y ait plus que cette divinisation, le salut, la justice, le royaume de Dieu, la vie éternelle. C'est pas par l'humilité qu'on se rapproche le plus de Dieu. C'est par l'effacement qui est la manière de Dieu de vivre le mystère de la croix que Dieu se rapproche le plus de nous. Il se rapproche le plus de lui-même déjà aussi. Pour ça, quand il est en présence des autres, Jésus, là, qui est en train de prier, il peut poser la question pour vous qui suis-je. C'est très fort, ça. Pourquoi est-ce que Jésus pose une question pareille? Parce qu'il se perd. Déjà éternellement, il se perd lui-même. Il est éperdument disparu. Alors, il n'a pas de miroir. Il ne s'est jamais posé la question. Mais dès qu'il y a un petit cheveu, dès qu'il y a les transgressions, dès que les transgressions viennent en lui, j'allais dire comme. Bon, c'est un phénomène. Qui suis-je là dans le mystère? Qui suis-je? Qui suis-je? Dans cette rencontre entre l'humilité et l'effacement, pour qu'il y ait cette onction. Dieu dans sa propre onction. La vie divine de Dieu dans sa propre source, pleine d'onction pour tout. Pour tous les instants et pour toute l'éternité et les deux ensemble. Réunis, qui suis-je? Et la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est... C'est ça qui est incroyable. Cœur du pécheur, le cœur du faible, le cœur du blessé, le cœur abîmé, tout ça, le cœur sale, le cœur impur, mais le cœur d'une nature humaine, mais somisé, parce que maintenant on peut dire ça. Le cœur absorbant les ténèbres de l'humanité, c'est voilà, c'est moi. Qui suis-je? Je suis toi, je suis vous. Je suis Jean le Baptiseur, je suis Élie le prophète, je suis un autre des prophètes, je suis. Voilà, Jésus peut dire ça, il peut le dire. Je suis celui qui suis dans le je suis. Absorbant, hein, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a l'unité des cœurs, et qu'il n'y a qu'un seul cœur. Et qu'on disait justement, il y a le cœur de Jésus, le cœur de Marie. L'origine de tout ça, qui suis-je? Mais je suis le cœur de Marie. Je crois qu'il peut dire ça d'ailleurs. Jésus, il peut dire, je suis l'amour immaculé, sans limite, sans fin de Marie, puisque je suis dans le je suis du Saint-Esprit, là. Il ne peut pas dire, je suis dans le je suis du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu, de sa propre personne. Et non, dans le mystère de la croix, il est le je suis, dans le je suis de Dieu lui-même, l'Esprit Saint, dans l'humilité de Marie, qui est son actuation, je suis le cœur de Marie, cœur de Jésus, cœur de Marie, c'est un unique je suis, et de Joseph, etc. Et donc, c'est pour ça que les six jours de la création sont là, dans le règne du Sacré-Cœur, qui suis-je. Et c'est petit à petit, faut pas l'oublier, que Jésus, dans son humanité, découvre ce qu'il est à l'intérieur de l'indivisibilité du cœur brûlant du royaume Sacré-Cœur qu'il est, puisqu'il n'y a pas de miroir pour lui. Jésus ne regarde pas lui-même, il est face à face avec le Père, et c'est à cause de ça qu'il y a un seul cœur sacré de Jésus. Est-ce que vous comprenez?
J'ai tout perdu.
Alors, c'est le mois du Sacré-Cœur. Mois du Sacré-Cœur. regarde le corps de son papa. Et il voit le je suis de ce qu'il est. Il regarde son papa. Et il voit son papa. Donc il voit son je suis. Il voit Dieu dans sa source, qu'il est lui-même. Il n'y a pas la moindre parcelle d'absence de son. Et en pleine lumière en plus. Voilà ce qui remplace sa vision béatifique du point de vue, enfin, voilà ce qui complète, c'est-à-dire l'expérience de sagesse. La sagesse de la croix lui permet de connaître tout ça et de le voir dans le rayonnement de sa lumière, de la vision béatifique à l'intérieur du mystère de la croix. Parce qu'à l'intérieur de Jésus, hein, il y a le poids de la croix, il y a le poids de la vision béatifique. Il n'y a qu'une seule possibilité pour lui de faire l'unité des deux, c'est justement ça. De la sagesse de la croix, à l'intérieur de laquelle, bien sûr, il y aura un seul cœur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vous le signale, je vous rappelle que aussitôt que Dieu s'est incarné, il y a cette course effrénée de Marie et de l'Esprit Saint qui le précipite jusqu'à Saint-Jean-Baptiste pour qu'il puisse, puisqu'il n'y a toujours pas de cœur, Jésus. Il faut attendre 3 semaines, c'est trop long, alors on court comme c'est pas possible. Pour s'engloutir dans le cœur de palpitant rempli du Saint-Esprit de Saint-Jean-Baptiste, à la voix de Marie, à la présence de Marie associée à un jeune homme, hein, tachyonique du Sacré-Cœur de Jésus, pas encore là, si je puis dire, s'engloutit à ce moment-là dans le cœur, et ça y est, le cœur de Jésus commence, alors que les cellules cardiaques n'ont même pas commencé à être chez lui. C'est parce qu'il a besoin de ça. Il est venu pour qu'il y ait un seul cœur. Cœur Jésus, cœur de Marie, cœur de Joseph. Le nôtre. Celui. Et vous voyez, c'est Jean-Baptiste tout de suite. Hein. Les gens répondent. Hein. Pour eux, qui suis-je? Première réponse, Jean-Baptiste. Hein, c'est inspiré, ça. Élie, le prophète. Le cœur de l'homme dans le paradis. Et tous les autres prophètes, tous ceux qui mettent la primauté de l'amour sur tout. Parce qu'un prophète, c'est ça, c'est quelqu'un qui met la primauté de l'amour sur tout. Et on est un seul cœur. Le moi du Sacré-Cœur. Le moi du Sacré-Cœur, il faudrait pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur de la prière de Jésus quand il est tout seul, qui prie tout seul là. Ce poids incroyable, la vision béatifique, le poids de la croix. Et alors, il faut qu'il s'engloutisse, bien sûr, s'engloutisse, mais entièrement dans la ténèbre du mystère de sa croix, jusqu'à la fin, jusqu'aux confins, des mystères de la gloire même, future angélique et de la gloire future de la résurrection, au-delà du mystère des noces de l'agneau, s'engloutir là. Dans les ténèbres les plus épaisses de la déréliction, de la perte de soi, pour pouvoir traverser tous les espaces qui empêchent l'unité indissoluble du Sacré-Cœur. Et c'est ça que nous recevons dans l'hostie. C'est la fin de cette course. Ça que nous recevons dans l'hostie, mais qui nourrit notre vie éternelle de Dieu, dans l'intérieur de Dieu, à travers notre chair, unifiée dans un seul corps, brûlant d'amour. Une fois qu'on est là, on peut passer au 7e jour, c'est-à-dire vous reposer maintenant. Vous pouvez dormir, c'est Dieu qui fait le reste. C'est-à-dire, vous pouvez vous poser là en disant à la paternité de Dieu, enfin, à la volonté éternelle d'amour de Dieu, de transformer tous les temps qui restent jusqu'à la fin pour les faire revenir. C'est un phénomène de spiration pour les faire revenir dans l'instant présent de maintenant. Et que ces absorptions, cette spiration de tous les temps futurs, ainsi que les temps éternels, par aspiration viennent dans l'instant présent, parce que le mystère de la croix finit par avoir plus de poids que le poids de la lumière de gloire, la vision béatifique du face à face. Puisqu'il est rentré dedans par la volonté éternelle du Père, c'est ça, la sagesse de la croix. Le poids de la croix est plus important. S'il est englouti, c'est la sagesse de la croix. Celui qui refuse la croix. Je ne parle pas de la croix comme ça, si. Refuse de vivre la croix, la souffrance. C'est le trésor absolu et substantiel de Dieu dans notre vie. Pour ça que saint Thomas d'Aquin dit l'absence de croix, de souffrance dans une vie, est un signe certain de réprobation éternelle. Ah bon? Eh ben oui. C'est bien, et là on comprend. Bon, avec saint Thomas, on comprend toujours tout beaucoup mieux parce que c'est abrupt, mais il y a un danger évidemment, c'est que on le prenne d'une manière extérieure, alors que le mystère de la croix se prend à l'intérieur de ce que vit Jésus. Attention, de ce que vit Jésus. Voir le théâtre prodigieux qu'il y a à l'intérieur de Jésus, le poids de gloire, le poids de croix. Hein. Et de son poids divin pénètre dans la ténèbre jusqu'au bout, jusqu'au fond, jusqu'à la base. Alors du coup, au bout du parcours, il y a un seul cœur avec l'absolution. Et la première absolution, c'est l'Immaculée Conception. Un seul cœur, c'est pour ça que c'est d'abord le cœur de Jésus de Marie. Mais cette absolution, elle atteint, bien sûr, la sponsalité, toutes les formes d'amour indépendantes qui sont élevées par grâce de Dieu au-dessus des conséquences du péché originel et des séquelles. C'est pour ça que Saint Joseph est là aussi, bien sûr. Ça fait un seul cœur de Jésus, Marie-Joseph, mais aussi le nôtre. Parce que nous, en dehors de Jésus, Marie-Joseph, franchement, notre vie sur la terre, en dehors de. Ce n'est pas. En dehors de cette transformation totale, à l'intérieur de l'unité de Maria spirituelle absolue, où on a disparu entièrement, il n'y a plus que cette transformation, on est changé en notre vie sur la terre, en dehors de ça. Dormir que faire du bien et penser qu'on fait du bien. Si on est en dehors, c'est mieux. C'est pour ça que les enfants, ils préfèrent rentrer dans l'hôtel extraordinaire, Jésus, Marie, Joseph, et ne pas naître à cette vie, courir sur les routes du bien, du soi-disant bien, qui est en fait une transgression. Parce que vivre en dehors de la croix, c'est une transgression contre Dieu. Parce que là, ils sont proches, ils peuvent s'engloutir très facilement pour s'approcher de cette conception, hein, créer la transverbération, le mystère de la croix. Le mystère de la croix, Jésus l'a vécu. D'un seul coup et en entier. Dans les premières périodes de sa vie embryonnaire, jusqu'à ce qu'il trouve un cœur. C'est pour ça qu'entre l'incarnation et la visitation, rien pour se reposer. Là. Il y a cette course. Et eux, ils sont très proches de ça, les enfants. Alors, ils sont inspirés par ça. Et ils vivent ça dans l'unique cœur Jésus-Marie-Joseph. Et comme ça, au fur et à mesure que les cellules staminales qui sont encore vivantes sont là, elles s'approchent, elles s'approchent, elles s'approchent. Elles s'approchent assez vite, finalement. Des cellules staminales cardiaques, si je puis dire, qui émanent du corps spirituel de Jésus-Marie-Joseph dans l'autel sublime du fruit des sacrements qu'on leur offre. Et ça, c'est la clé. C'est la clé pour rentrer dans l'église de l'Apocalypse, dans l'église de Johannique, dans l'église de la Jérusalem. Glorieuse. Ben, nous aussi, on rentre pas là aujourd'hui. Ben, on n'est rien, quoi. On n'a pas à être fier de nous. Hein. C'est dérisoire, quoi. Même j'aurais sauvé des 10 millions d'enfants affamés de la faim en me donnant à eux pour qu'ils ne meurent pas de faim. Ce serait dérisoire si je ne le vis pas. Si je ne vis pas ce que vient un embryon, enfin, un enfant avorté, quoi. Pour qu'il y ait un seul cas, mais tout tendu vers la conception de cet unique cas de Jésus, Marie, Joseph, et du Saint de la terre d'aujourd'hui. Voilà, une seule brûlure, avec ce qui reste de la mission du véritable Israël de Dieu au milieu des nations, sur le cheval blanc de l'Apocalypse, avec la bannière. Avec la bannière de la sponsorité, parce que Jeanne, c'est le côté féminin. Le côté féminin, c'est-à-dire un créé sponsal du Verbe de Dieu, trempé dans le sang. On n'en dira jamais assez. Jésus, Marie, Joseph, Jeanne et le grand saint. C'est Jésus de Nazareth en entier, roi d'Israël, roi du Père, Henri. Source d'onction et des trois Pentecôtes dans la nature humaine tout entière, dans la demi-heure qui doit s'ouvrir, en raison des causes méritoires. Dans lequel il a disparu dans le Sacré-Cœur de Jésus. Unifié, indivisible, immortel. Voilà. Et nous, on s'engloutit là. On s'y habitue de manière à être prêt à briser nos cruches avec les Cédéons pendant la demi-heure en question. La demi-heure, oui. C'est la Sainte Famille, il y a 30. Et il y a 300, j'ai dit. C'est 30 minutes vécues dans la volonté incréée du Père, 10, dans sa fragilité. C'est pour ça qu'il y a 300, j'ai dit. Il faut que le nombre soit atteint. On n'a pas une toute petite mission, là. On en a peut-être, on ne fait pas partie des 300 Gédéons, ça c'est sûr, mais ça c'est certain. Mais au moins on peut faire partie de ceux qui les aiment. Au moins, si on pouvait partir de ceux qui aiment les Gédéons, ceux qui aiment le roi, ceux qui brûlent avec le. Voilà, dans leur raison. La bannière qui. C'est extraordinaire ça. Dans le fond du mystère de la croix de Jésus, la croix glorieuse. Bon, j'espère que vous n'êtes pas exaspérés d'entendre toujours la même chose, exactement la même chose, sans arrêt, sans arrêt. Ça, je reconnais que... Il Il y a de quoi faire marcher les turbines, là. De l'exaspération, c'est pas bon. Allez. Ah. C'est toujours la même chose, c'est sûr, c'est toujours la même chose, mais. Qu'est-ce que vous voulez? La transcr. Mon papa, il est. On ne peut pas faire comme si c'est. Il n'était pas là, quoi. Et c'est moi qui ai autorité là-dessus. C'est moi. Je peux pas faire comme si je n'avais. Ce n'est pas moi qui avait autorité royale. D'onction divine, surnaturelle, chrétienne, dans le mystère de la croix par la foi. Dans l'unique cœur de l'humanité qui palpite pour venir habiter, j'allais dire. Je suis le seul à pouvoir rentrer là pour que l'ange de la paix puisse pénétrer avec le paraclet dans l'onction, pas seulement dans l'onction du paraclet qui est la palpitation du Sacré-Cœur, mais aussi l'onction du paraclet qui est l'hypostase même du Saint-Esprit, qui est l'actuation d'absolution glorifiée de toute la création entière. Je suis le porteur de ça, personne d'autre que moi. Hein. Je ne peux pas faire comme si, en ce moment, c'était fait une fois pour toutes, et puis, vite, que vague. J'ai fait une fois la prière de consacrer ça, pour faire un acte d'amour, de consolation, de la paternité transgressée et dévastée de Dieu. J'ai eu une larme qui a coulé, donc c'est bon. Il n'y a même pas une langue à couler, certains. Donc ça va. Je suis au courant maintenant ce que c'est que si, mais je suis au courant et je le dis. Oui, c'est pas bien, c'est pas bien. Ah oui, mais même pas une larme, pas une, pas une. T'embêtant, ça. Peut pas faire comme si. Comme si j'étais pas l'unique responsable, puisqu'il faut être dans la ténèbre de la foi pour avoir cette autorité, cette partie palpitante, brûlante, du cœur brûlant de Jeanne d'Arc au milieu des cendres, et sortir des fleuves de l'insipidité des hommes pour pénétrer là. Que ceux qui viennent du nord n'approchent pas, parce que la place est déjà occupée. Et le Sacré-Cœur ne peut pas occuper la place s'il n'y a pas une cause méritoire, s'il n'y a pas le saint de la terre. Et donc on aime le roi, au moins on sait déjà qu'il y en a un qui reçoit. J'ai parcouru toute la terre et je ne trouvais personne. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. Il y a un saint. Alors on l'aime. Et c'est l'avantage de l'amour. C'est qu'on peut, quand on veut, se catapulter à l'intérieur du cœur du saint, où qu'il soit, quel qu'il soit. Et de le retirer à l'intérieur de lui, se reposer, s'abreuver en lui, de la manière qu'il a lui-même. Dans la paternité ouverte de Dieu. C'est pas une répétition de dire ça. C'est moi qui vous ai choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est pourquoi vous fassiez cela. Vous portez que ce soit un fruit qui demeure. Parce que la charité passe le cinquième saut de l'Apocalypse. La charité passe le sixième saut de l'Apocalypse, tandis que l'espérance et la foi peuvent tomber. Et c'est pour la charité à travers la foi, de toute façon. Parce que la foi peut changer de mode. Que la foi, quand tu es dans la Pentecôte apostolique, le Saint-Esprit, la boule de lumière te tombe dessus, la foi, c'est quand même pas la même chose une foi qui est entièrement engloutie dans la nuit totale, totale, de toutes les nuits spirituelles, sensibles, humaines, qui soient. La foi n'a pas la même modalité. Elle se trouve là, dans ce deuxième cas, dans le mariage spirituel, à l'état pur. Et la partie lumineuse de la foi, elle peut disparaître. Mais la charité, non. La charité passe partout. Donc on aime le saint, on l'aime. Et on ne répétera jamais assez de venir se transplanter là, pendant une demi-heure. Parce que le Père est là. Et il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Celui qui cherchera à sauver sa vie en dehors de ce chemin-là sera perdu. Il est dans la perdition. C'est pas compliqué. Crétant et non homme d'herbe.